Alors les deux derniers enseignements, Omar Rav Yehuda, Omar Shmuel, Rav Yehuda, on peut se fermer un peu parce que ça dérange trop de bruit là, on ne s'entend plus. Ouvrez la porte si vous voulez pour faire de l'air. Hein. Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Yomos Hamoshiach le Israël, mi chez Nivro Oilam Bat Archon. Les jours du Messie pour Israël, autant que depuis le jour de la création jusqu'à maintenant. Ça fait une période beaucoup plus longue. Chez Néhémar, comme il est dit, dans le Deutéronome 11-21, c'est tout simplement un des versets du Shema, la prière du Shema, qui met à Shema et Malorez, comme les jours des cieux sur la terre. Fin d'un verset que nous verrons entièrement lorsque nous referons l'étude analytique. Donc durée équivalente à l'histoire du monde depuis la création jusqu'à la vie du Messie. Archar jusqu'à maintenant, ça veut dire jusqu'au moment où le Messie vient. La durée de l'époque messianique est égale à la durée de l'histoire du monde qui la précède. Enfin, dernier enseignement, Rav Nachman bar Yitzhak Omar, Rav Nachman d'Isaac, dit « Ki mei noyach » ad otto, c'est un peu plus court, « comme les jours de Noé jusqu'à maintenant », ça veut dire « comme depuis l'époque du déluge jusqu'à maintenant ». Chez Neymar, comme il est dit, dans Isaïe 54,9, si je ne me trompe pas, Kimei Noar Zos Li Asher Lishbati. Alors c'est le début d'un verset qui est beaucoup plus long que nous verrons. Comme les jours de Noé, ceci est à moi, j'ai juré, le verset continue, n'est-ce pas ? De même que j'ai juré de ne plus apporter l'eau du déluge sur terre, j'ai juré de ne pas me fâcher contre toi et de ne pas te réprimander. Voilà donc ce texte avec les 10 enseignements. Je comprends que on nage un peu, c'est pas faire une blague de mon dégoût, c'est pas parce qu'il y a les autres de Noé qui n'ont pas été nommés, mais on nage un petit peu. Alors, nous allons nous arrêter 2 minutes, et pour permettre de faire le point, je vous ai préparé en français un tableau récapitulatif. Celle d'en haut, elle est très simple. Je vous ai donc remis dans l'ordre le nom du Rav, ça vous permet de y voir plus clair déjà. La durée qu'il propose, la référence biblique. Et puis si par hasard il y a quelqu'un qui intervient soit pour contredire, soit pour apporter un complément, j'ai indiqué également ça. Le tableau d'en bas est destiné plus spécialement à mes élèves, je veux dire à ceux qui ont l'habitude d'étudier toute l'année avec moi, mais il peut être aussi utilisé par les gens qui ont l'habitude un petit peu donc, de différencier Tanaïl, Amoraïl, enfin qui ont un petit peu une connaissance de cela, donc permettra de comprendre la cohérence interne du texte. Alors, si nous prenons en effet la première Braïssa, c'est-à-dire les 3 premiers rabbins, il s'agit de 3 Tanaïm, d'ailleurs, entre parenthèses, une petite parenthèse, très très brève, le terme de Rabbi est donné aux Tanaïm et aux Amoraïm palestiniens, d'Eret Israël, puisque l'ordination, la smicha, vous vous en souvenez, ne pouvait se faire qu'en Eret Israël. Et le nom de Rav est donné aux Amoraïm babyloniens qui avaient reçu habilitation, mais pas la smicha, puisque la smicha ne pouvait pas se faire en Babylone. Ça c'est la règle générale. Il y a quelques exceptions, comme Rav et Shmuel, qui n'ont pas de titre du tout. De toute façon, les titres ont été institués simplement à partir de la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne. Avant, on parlait des gens uniquement par leur nom, Hillel, Shama, etc. N'est-ce pas ? Donc les plus anciens n'ont que des noms, c'est encore plus qu'un titre. Alors donc vous avez ici trois. Vous avez donc trois Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, donc qui sont. Alors oui, je veux dire que Rabbi tout court. Quand on dit Rabbi tout court, comme c'est expliqué dans le Shabbos en bas, c'est Judas le Saint, Judas Nassi, le rédacteur de la Mishnah, n'est-ce pas ? Le maître par excellence, Rabbi, ou Rebbe, comme disent les Hassidim quand ils étudient la Torah, n'est-ce pas ? Le Talmud, le maître par excellence. Donc Rabbi, il n'y a pas de nom, c'est Rabbi tout court. Alors, donc nous avons dans la première partie, nous avons trois Tanaïm qui donnent un enseignement, donc c'est parfaitement cohérent dans le temps et dans l'espace, et la Gemara a ajouté l'enseignement de Rabbi Hillel, qui est le petit-fils d'ailleurs, le petit-fils de Rabbi, parce que, comme nous verrons, c'était le seul endroit logique où l'on pouvait mettre l'enseignement de Rabbi Hillel, parce que nous verrons qu'il obéit à la même clé que celle des trois premiers rabbins. Ensuite, nous avons une autre Braïta, donc avec les trois suivants, nous avons Rabbi Eliezer, Rabbi Dossa et nouveau Rabbi, qui donc donnent, selon une autre clé, la durée du jour du Messie. Et puis ensuite, on nous apporte une Beraïssa d'un Amora babylonien, et pour terminer, deux enseignements de deux Amoraïs babyloniens. Donc voici la structure. Vous voyez, lorsque le Talmud a été composé, a été mis en forme, à mon avis, par écrit, ce n'est pas du tout dans un désordre savant artistique, mais cela correspond à une cohérence interne, à la fois dans l'enseignement et dans la logique des époques de l'enseignement recueilli et mis ainsi successivement. Voici ce que je voulais donc vous dire très brièvement. Alors maintenant, pour comprendre, pour reprendre maintenant un à un, alors, pour reprendre un à un les différents auteurs et les différents versets pour faire un travail cette fois-ci donc analytique, il faut d'abord essayer de comprendre à quelle clé cela obéit. Je disais, en tout cas, il faut savoir que l'histoire de l'humanité, telle que la tradition juive la présente, comporte trois grandes étapes. Il y a ce qu'on appelle ce monde-ci, Olam Hazé. Il y a donc le monde dans lequel nous vivons, tout le temps d'histoire actuelle, et puis ensuite, il y a Yomé Mashiach, les jours du Messie, l'époque messianique, ce dont nous étudions maintenant la durée, et ensuite il y a Olam Haba, le monde à venir. Il faut éviter une confusion qui est très fréquemment faite entre ces deux notions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les jours du Messie, l'époque messianique, et le monde à venir, Olam Haba. Le but de l'histoire, c'est d'arriver au monde à venir, Olam Haba, qui est le monde parfait, un univers totalement différent du monde actuel. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet. On le dit, on l'appelle le monde qui vient, parce que ce n'est pas un monde qui serait à venir, mais le monde que nous fabriquons. Le monde qui vient, parce que c'est le but de l'histoire juive. Par l'accomplissement des mitzvot, des commandements de la Torah, nous essayons de transformer l'histoire, d'accélérer l'histoire, pour le dire en langage marxiste, mais de l'accélérer par un processus spécifique qui est l'accomplissement des commandements uniques. Le but est de transformer le monde de la nature, si possible d'accélérer l'histoire, et c'est ça que ça veut dire, si nous méritons, le Messie viendra plus tôt. Mais le but final, c'est d'arriver à ce monde idéal radicalement différent du monde actuel, et Olam Haba. Ce qui veut dire que les jours du Messie ne sont que l'époque de transition, et que, si je représente d'une façon très schématique, en bas, Olam Hazé par une ligne dont je ne connais pas la durée, Le but étant ensuite, voilà ma barque, je laisse ouvert, voilà ma barque qui doit ensuite être sans fin. Les jours du Messie, qui seront à la fin de Olam Hazeh, uniquement comme tremplin pour arriver au monde à venir, une première possibilité consiste à dire, eh bien nous souhaitons qu'elle soit le plus court possible, parce que ce que nous intéresse, ce n'est pas le Messie. Le Messie nous intéresse que comme étape, mais non pas comme réalisation définitive. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, comment ne peut pas passer directement de ce monde-ci au monde à venir, qui est nécessaire, j'allais dire, comme le Havdil dans des réactions chimiques, n'est-ce pas? Pour transformer un corps dans un autre, on passe par différentes réactions chimiques. Les réactions sont des étapes. Le but, c'est d'obtenir la réaction définitive. Et bien de même, comme il n'est pas possible de passer directement de ce monde-ci au monde à venir, il y a nécessité d'une étape. Mais cette étape peut être imaginée, première possibilité, peut être souhaitée en tout cas par les rabbins, comme étant la plus courte possible. C'est effectivement la clé de la première Braïssa. Mais, tout en étant la plus courte possible, elle doit correspondre à certains impératifs, soit de l'histoire, soit à certains impératifs concernant ce que j'appellerais la dignité du Messie. Étant donné que nous passons notre temps à espérer le Messie, c'est quand même, j'allais dire, quelqu'un, quelque chose d'important, et ce n'est quelqu'un qui doit donc se réaliser. Le Messie doit exister vraiment. Ce n'est qu'un tremplin, mais c'est un tremplin plus qu'honorable. Et donc, par conséquent, il y a un minimum de décence, un minimum nécessaire pour que le Messie s'appelle Messie, vraiment. Pas un morceau de Messie, pas un Messie bâclé. Un Messie complet, vrai, le plus court possible, mais un Messie. Et effectivement, cela s'explique dans la mesure où, dans les prophéties et dans la vision du monde à venir, le souhait des sages, qui correspond d'ailleurs aux enseignements bibliques, c'est d'être directement sous la souveraineté de Dieu. Et par conséquent, ce que les rabbins vont essayer de voir dans la première partie, c'est quelle est la durée minimale nécessaire pour que le peuple d'Israël, le peuple juif, soit sous la conduite du Messie, avant que le peuple juif soit capable d'être directement sous la direction de Dieu lui-même. Donc vous voyez ces trois nuances. La deuxième Braïta, et on peut même dire que toutes la fin, n'est-ce pas, tous les trois autres parties obéissent à un autre critère, à savoir que on ne peut pas imaginer que l'histoire soit injuste. Et étant donné que l'histoire de ce monde-ci de Olam Hazeh, telle que nous la vivons, est grevée d'injustice, que ce n'est pas une époque de perfection, il est nécessaire qu'il y ait dans ce monde-ci, avant d'arriver au monde à venir, qu'il y ait, si l'on peut employer ce terme, et prenez-le de façon uniquement, non pas littérale, comme un exemple, enfin, qu'il y ait réparation, compensation. Mais encore une fois, je mettrai ces mots entre guillemets, n'est-ce pas? Puisqu'on ne peut pas compenser des souffrances. Je veux dire que simplement, dans la cohérence de l'histoire, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas au moins autant de durée dans ce monde-ci où le monde soit vraiment normal, réalisé, avec des êtres humains. Avant d'arriver au monde à venir, qui est un monde radicalement différent, qu'il n'y ait pas au moins autant de paix, de plénitude, de réalisation qu'il y a eu de période de souffrance. D'où les durées diverses qui sont très longues, qui vont aller, comme vous voyez, de 40 ans jusqu'à 465, 7000 ans, ou même autant que depuis la création du monde jusqu'au Messie, parce que, en fonction donc des réalités et des versets cités, il y a nécessité de faire que le monde, dans la cohérence divine, ne soit pas un monde injuste. Vous voyez à peu près. Et avec des nuances, et nous verrons qu'il y a des nuances C'est pour ça qu'il y a trois parties, la deuxième grande partie, avec des nuances en ce qui concerne cette compensation. Les critères ne sont pas tout à fait les mêmes, mais le principe général est. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Et c'est pour cela que les versets cités ne sont pas les mêmes la deuxième fois. Le même rabbin peut intervenir. Mais premièrement, si je pense que le Messie doit être le plus court, l'époque du Messie doit être la plus courte possible, je vais chercher un verset qui me permet d'avoir un Messie digne, entier, mais le plus court possible. Par contre, si je pense que je dois avoir une époque messianique qui soit au moins aussi longue que les souffrances, eh bien, les rabbins vont au contraire dire « mais nous avons souffert beaucoup plus que cela, ça va être une chose croissante. » Jusqu'à, non pas exiger, jusqu'à montrer que dans la cohérence biblique elle-même, c'est possible. Alors, une remarque méthodologique. Vous voyez, vous avez vu, à part Rabbi Hillel, qui est donc contesté, celui qui dit « il n'y a pas de Messie du tout », aucun des autres rabbins n'est contesté. C'est-à-dire que chacun apporte un verset. Ce verset est lu par lui de façon à justifier la durée qu'il porte, et le rabbin qui suit ne se sert pas du même verset, sauf un cas que j'ai cité. Sauf dans la deuxième fois, Rabbi Eliezer, Rabbi Dossa. Ça veut dire que tout le monde est d'accord avec ce qu'a dit l'autre rabbin. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de discussion véritable. Mais cela veut dire qu'il s'agit de possibilités. Dans la cohérence même de la réalité de ce monde tel que la Bible nous le décrit. Si j'ai un verset que je peux lire de façon telle que cela implique une durée telle pour les jours du Messie, je peux dire, et à bon droit, qu'il est possible que cela se passe ainsi. Ça veut dire que ce qu'on nous présente, ce n'est pas comment ça se passera. On a dit Maïmonide, on ne sait pas comment. Mais ça veut dire que toutes ces possibilités, elles, ne sont pas stupides, ne sont pas arbitraires, elles sont cohérentes par rapport à la Bible elle-même. Dans la Bible, des versets qui nous annoncent, par exemple, « Réjouis-nous autant que tu nous as opprimés ». Donc, c'est Dieu lui-même, dans sa propre cohérence, qui nous annonce qu'il y aura une compensation. Par conséquent, si j'ai des versets qui me montrent que la réalité des souffrances d'Israël est de temps et de temps, et ça se traduit comme mathématiquement par la présence du même mot, opprimé, dans les deux versets, donc je peux faire une équation, je peux dire qu'il y a une possibilité que la durée du Messie sera de temps. Est-ce qu'elle sera de temps? Je n'en sais rien. Parmi toutes les possibilités, laquelle correspond à la réalité, ça dépend d'un tas de facteurs. Ça dépendra vraisemblablement de la façon dont le Messie viendra. Ça dépendra vraisemblablement de ce que sera la génération du Messie. Ça dépendra aussi de la volonté de Dieu. Je n'en sais rien, puisque les sages ne le savent pas. Ce n'est pas pauvre moi qui vais le savoir. Simplement, ce que je sais, c'est que toutes ces affirmations ne représentent pas des affabulations des rabbins, mais des possibilités cohérentes par rapport à la logique biblique. C'est clair. D'ailleurs, si vous regardez dans la liste en bas, qui sont ces rabbins qui ont parlé, vous voyez que c'est parmi les plus grands noms de l'histoire, et que, bien entendu, ces gens ne se sont pas amusés à jouer comme ça, hein, à des petits jeux, le samedi soir après Shabbat, pour passer le temps. Parce qu'évidemment, ce sont ce genre de texte qui fait rire à gorge déployée les gens quand on le présente dans une traduction non expliquée. Il s'agit donc de choses très sérieuses. Vous voyez les critères auxquels ça obéit. Le souci des rabbins est extrêmement grave. Premièrement, ce que nous souhaitons, ce n'est pas que le Messie arrive. Le Messie, on s'en fout. Enfin, je sais comme il est là. J'avais dit. Ce que nous voulons, c'est Dieu. Hein. C'est pas comme les panonceaux des Lubavitch. We want Mashiach, no, nous voulons le Messie tout de suite, n'est-ce pas? Nous voulons Dieu, le plus tôt possible, n'est-ce pas? Nous voulons être directement sur la volonté de Dieu. Le Messie, bien sûr, il le trouve, du moins dans son possible. Deuxième possibilité, mais attention, il faut d'abord qu'il y ait justice, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait équilibre. Il n'est pas possible dans l'histoire du monde qu'il n'y ait pas autant de monde réalisé, de monde vrai, authentique, qu'il y a eu de monde injuste. Donc, je ne peux pas, même si je suis pressé, me passer d'une certaine époque de la Messie. Vous voyez, alors, avec ça, nous avons déjà vu l'ensemble. Il est bien certain que dans le cadre limité de ce séminaire, de la séance d'aujourd'hui et la séance d'après-demain, il ne nous est pas possible de prendre en détail chacun des versets de l'étudier, ça nous demanderait une vingtaine d'heures. Ce que je vais faire, en faire quand même, c'est de prendre chaque enseignement et chaque verset, et je vous donnerai, façon synthétique, en français directement, l'essentiel des enseignements qui nous permettent de le comprendre, avec les sources éventuellement. Et puis, quand nous aurons fait cela, fini cela, parce qu'en fait, nous n'aurons pas fait grand-chose encore, nous ne serons pas allés dans la profondeur des choses. Alors simplement, rappelez-le-moi si j'oublie, quand nous aurons fini, qu'il me reste, j'espère, un quart d'heure, 20 minutes, pour que je vous montre que l'on peut aller beaucoup plus en profondeur, en signant ce texte, et voir dans la symbolique du texte, dans l'utilisation des mots, l'utilisation codée, comme c'est le cas chaud dans la Gemara, n'est-ce pas ? On a parlé de soleil, de lune, etc., n'est-ce pas ? Vous verrez que très souvent, soleil et lune vont arriver, de vous faire une petite explication sur un des versets, sur le rapport entre lune et soleil par rapport au problème du Messie. Et donc, ce même travail que j'essaierai de vous de faire en un quart d'heure ou plus élaboré, on pourrait le faire pour chacun des versets, mais il nous faudrait plusieurs heures. Mais donc, rappelez-moi, ça nous donnera, en même temps, j'ai choisi ce verset, parce qu'on aura une idée d'ensemble de ce que signifie le Messie, je crois en tout cas, que c'est le plus riche peut-être de ces différents enseignements. Alors maintenant, nous allons donc reprendre un à un, à moins qu'il y ait des questions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Alors je vous en prie, je suis tout à fait, non seulement d'accord, mais je souhaite qu'il y ait un dialogue, et donc je suis tout à fait heureux. Oui, tu voulais demander ce
matin, qui a rédigé ce texte, enfin, ce contrat de débat ou de discussion, c'est une figure ou pas ici, hein, je
quoi
le rédacteur de ce
passage. Non, ceci est un extrait du Talmud, c'est la page
44 du Talmud. Mais ce n'est pas...
Le Talmud a été... Le Talmud se compose de deux parties, Mishnah et Gemara, sixième partie de Gemara. La Mishnah a été donc compilée. Il s'agit de tradition orale qui remonte à Moïse. C'est-à-dire que la tradition juive a un enseignement formel. Moshe Kibel Toirov Sinai, ou Mesora Yeshua, c'est le début du traité Avot du Talmud. Moïse a reçu la Torah du Sinaï. Il a transmis à Josué, qui a transmis aux anciens, qui a transmis aux prophètes, qui a transmis à la grande assemblée. Et dès le début, Moïse a reçu la Torah, la lecture de Rachid, tout le monde, c'est Torah écrite et Torah orale. Bon, il faudrait tout un cours pour exposer cela, je peux les faire dans mon cours durant l'année. Ça veut dire que la tradition écrite ne veut pas se comprendre sur la tradition orale. La tradition devait rester orale pour des raisons historiques, de risque, d'annihilation du peuple juif, de persécution, on l'a mis par écrit, de la façon la plus brève possible, d'abord la Mishnah, donc d'abord on a compilé l'enseignement oral de façon cohérente, puis on l'a mis par écrit, et c'est Judas le Saint, qui en 188, a terminé la rédaction de la Mishnah. Et puis, on s'est aperçu que c'était beaucoup trop concis, et que c'était donc difficile à comprendre, et on a élaboré également le complément, un complément, c'est ce qu'on appelle Gemara, c'est-à-dire complément à la Mishnah. Ça a été fait en Babylonie, d'une part, et en Palestine de l'autre. Le Talmud de Jérusalem a été fini en catastrophe à cause des persécutions, et donc il est moins complet. Le Talmud de Babylone, en Babylonie, il y avait une époque à ce moment-là assez agréable pour les Juifs, et donc c'est à peu près en 500 qu'a été terminée la rédaction du Talmud de Babylone. Et ce texte que nous avons correspond donc à. Donc tous les enseignements sont antérieurs à 500. Voilà, très grossièrement.
Au 4 siècles.
Non, ça correspond à 3 siècles, entre 200 et 500, d'élaboration de la tradition orale transmise depuis Moïse.
Et la Mishnah.
Je l'ai déjà dit.
Oui, la Mishnah et la Gemara.
Non, la Mishnah, 188.
Oui,
188. Judas le Saint, et la Gemara ensuite.
Le commentaire sur la Mishnah.
L'élucidation de la Mishnah.
Là, par exemple, Yerushalmi, vers le 500.
Non, Yerushalmi, bien avant. À peu près en 372 ou 90, il y a différentes dates. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, j'ai dit simplement le Yerushalmi, plus tôt, parce que les persécutions étaient telles qu'on n'a pas pu le terminer, on a dû le finir en catastrophe, et le Talmud Babli, qu'on est Talmud, c'est le Babli, c'est une étudiant.
Oui, mais
Une autre question ?
Ce serait intéressant, je ne sais pas, vous avez
oui, tout à l'heure, vous avez
de votre sujet. Ce serait intéressant de connaître les arguments de Rabbi Hillel pour dire que le Messie est déjà venu.
Nous allons venir, j'ai dit que maintenant nous allons prendre successivement un après l'autre. Nous allons faire successivement les différents enseignements. Ben, on va y arriver, c'est le quatrième. Hein. Vous voulez accélérer l'histoire ?
J'attendrai.
Oui ?
Oui ?
Oui. Alors ça c'est encore un autre, je n'en ai pas parlé, alors ça c'est autre chose. Alors il ne faut pas confondre, puisque tu poses la question, il ne faut pas confondre Olam Habo ni avec Emotion Mashiach, ni après le monde, après la mort, ce qu'ils appellent Olam Hanoshomos, Olam Hanoshamot, c'est pas grave. Ceci est tout à fait autre chose, bon c'est hors sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le lieu où seraient les âmes après la mort en attendant la résurrection. Bon, ça c'est tout à fait autre chose. Et Olam Haba, c'est la transformation de ce monde-ci. C'est le monde où nous sommes, le Saint Rachi avec ses bancs, etc., mais transfiguré après l'époque messianique. Le Olam HaNeshamot, le monde des âmes, c'est après la mort, le corps retourne à la terre, donc le lieu de réserve, le réservoir des corps, c'est la terre, et les âmes vont à un endroit, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, qui s'appelle Olam HaNeshamot, le lieu, de, le réservoir des âmes qui attendent. Alors, je ne vais pas parler non plus de la résurrection, parce que c'est un problème hors sujet également.
C'est figure d'un thème.
Quoi ?
Problème de la résurrection.
Oh là là ! Pour la résurrection, il y en a des pages et des pages.
Olam HaNeshamot aussi.
Olam HaNeshamot, je ne sais pas si c'est dans le Midrash ou la Gemara, mais enfin, bien entendu, il y a des...
Olam Haba, naturellement.
Olam Haba, sans arrêt. Oui, monsieur.
Le rabbin qui a dit 7000 ans.
Oui.
7000 ans, abîmé.
Oui.
Il a dit le pasteur de. Quelque chose qui attendra à la.
J'ai dit que nous allons prendre maintenant. J'ai voulu faire d'abord une lecture globale, comme on dit en. Hein, la méthode moderne, lecture globale, pour que nous ayons tous les textes. Maintenant, nous allons reprendre un indice. Nous allons reprendre. Quand nous arriverons au septième, j'espère que nous l'expliquerons, c'est le septième. Nous allons reprendre maintenant. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait ? On a lu. J'ai donné les grandes lignes. Maintenant, il faut commencer à étudier sérieusement. Maintenant. Alors, ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui, je ne sais pas si on arrivera, c'est d'essayer de faire la première Braïssa, si possible, les quatre premiers, et de laisser donc les six autres pour l'après-demain, ainsi que la petite explication sur l'huile et le soleil, nous ai parlé. Alors, premier enseignement, les jours du Messie, donc je reprends, Rabbi Eliezer dit, les jours du Messie seront 40 ans, comme il est dit, pendant 40 ans, j'agripperai une génération. Alors, je ne vous donne plus la référence, vous les avez, je vous les ai dit, que vous avez un tableau en français, donc ce n'est pas la peine qu'on perde du temps dessus. Alors, ce verset se trouve effectivement dans un psaume que ceux d'entre vous qui ont mis les pieds une fois dans les synagogues un vendredi soir connaissent, puisque l'office du vendredi soir commence par ce psaume, le Chou Neranenol Hachem, Nori Lotzori chez nous, qui est le psaume 95, et ceci. Et le verset 10, c'est l'avant-dernier verset. Alors, normalement, ce verset parle des Hébreux dans le désert. Parce que les versets qui précèdent celui-là nous font référence à l'inconduite des Hébreux dans le désert. En effet, pendant le verset 8, dit « Attachou le bafrem qui me rivo »« Ne durcissez pas votre cœur comme à Riba. » Riba, ça veut dire d'ailleurs dispute, c'est pas le lieu où ils ont disputé Moïse. « Kayom Massa Bamidbar » comme le jour de Massa. C'est aussi un des épisodes de révolte contre Moïse dans le désert. « Asher nisouni avosechem » comme vous avez éprouvé comme vos pères m'ont éprouvé, de la façon dont vos pères, vos ancêtres m'ont éprouvé, la façon dont ils m'ont tenté, et pourtant il avait vu mes œuvres. Arboim Shono Okudbedor, 40 ans, j'agripperai une génération. Am Toe Levohem, peuple errant de cœur, ils sont. Hem Lo Yodu de Rochoy, et eux ne connaîtront pas mes voix. Et le verset, le psaume fini, Ashanishbatib Api, il ne vaut même aussi. Comme j'ai juré dans ma colère, s'ils rentreront dans le lieu de mon repos. Le terme si en hébreu, c'est toujours au début d'un serment, ça veut dire je jure que ne pas, n'est-ce pas? Ils ne rentreront pas. Donc, ceci est un psaume qui rappelle ce qui s'est passé au moment du désert. Mais c'est également un psaume prophétique pour plusieurs raisons. D'abord parce que avant, au verset 7, on nous dit qui hu Elokeinu, car il est notre Dieu. Vanartu Amariso, et nous sommes le peuple de son gardiennage. Vetson Yodo et son troupeau, n'est-ce pas, dans la symbolique du berger et du troupeau. Hayom imbekolo sishme. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Et le Talmud cite ce verset pour raconter dans la même Gemara de Sanhedrin, à très peu d'endroits du passage que nous étudions aujourd'hui, qu'il y a un rave qui a demandé qui a obtenu une audience avec le Messie par le prophète Élie, et il est allé voir le Messie, là où le Messie est en attente, et il a demandé quand viendras-tu. Le Messie a répondu Hayom, aujourd'hui. Alors, il est revenu, puis il a attendu, puis après il est allé trouver Élie en disant le jour est passé, tu m'as menti. Je vous résume, je vous résume en langage humoristique, un tel qu'il demanderait d'étudier. Mais il n'est pas venu le Messie. Alors il lui dit, mais quand il a dit Hayom, il citait un verset que tu connais bien. Hayom imbe koilos ishmeu. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, ça dépend d'Israël. Si Israël accepte de prendre sur lui toute la Torah, si tu écoutes la voix de Dieu, eh bien, il viendra sur le mérite aujourd'hui même. Le Messie n'attend que cela. Donc, ce verset est interprété unanimement par la tradition juive comme étant un verset messianique. Il se trouve dans le même passage. D'autre part, Rashi fait remarquer à juste titre une particularité pour ceux qui sont un peu grammairiens dans la salle, qui est tout à fait claire dans le passage que le Talmud cite, Arboim Shonu Okut Bedor. 40 ans, Okut, c'est un inaccompli, c'est un futur, comme on dit. Okut, j'agripperai une génération. Autrement dit, même si ça s'applique à ce qui s'est passé il y a 40 ans, à ce qui s'est passé pendant les 40 ans du désert, on n'aurait pas dû avoir à ce moment-là un futur. Autrement dit, c'est aussi un verset prophétique, puisqu'il y a un futur qui n'est pas à sa place. Et donc c'est ça que s'applique essentiellement à l'époque messianique. D'autre part, c'est Malbim qui fait remarquer cela, d'autre part, lorsqu'on nous dit avant, ne durcissez pas votre cœur, comme ça a été fait à Moriba, ne faites pas comme ça a été fait, c'est donc un avertissement prophétique, ne faites pas à l'époque où le Messie viendra, ne faites pas, ne vous conduisez pas avec le Messie comme vous êtes conduit avec Moïse. Donc, ce verset, d'une part, nous fait un rapprochement avec les 40 ans du désert, mais est en même temps un verset prophétique, donc sur le Messie. Alors, nous le comprenons mieux à ce moment-là. Arboim shono okut bedor. Il y a une contradiction dans le verset. En effet, on nous dit 40 ans, j'agripperai une génération. Or, une génération, nous savons, bon, il y a un tas de versets, c'est que c'est 20 ans. Une génération, donc, d'après les textes que nous avons, je vous citer toute une série de textes, dans la tradition juive, une génération, ça veut dire la différence entre un père et un fils. Et vous savez qu'on se mariait 18 ans, dans la tradition juive, et donc 20 ans, c'est la durée de la grande génération. Et ça, je peux vous donner toute une série de textes, qu'une génération, c'est 20 ans. Une génération, c'est pas une durée de vie. C'est la durée de temps qui sépare un père et un fils. Et je répète encore une fois, la halakha, c'est que vous se mariez à 18 ans.
Donc un père et un père. Un père et
son fils.
Et futur père.
Tu voulais, c'est là.
Deux pères successifs.
D'accord. Une génération, c'est la durée moyenne, c'est 20 ans. Or ici, on nous dit, Arboim Shona, pendant 40 ans, mais une génération. Je vais t'expliquer par Rashi, en disant que justement, il fallait une génération particulière qui se différenciera des générations précédentes, parce que ce sera l'époque du Messie. Ce sera une seule génération, mais qui durera 40 ans. Pourquoi ? Parce que, de même que, il a fallu 40 ans pour sortir les Juifs d'Égypte, où ils étaient complètement exilés, et pour les amener en Terre Sainte, en Eretz Israël, qui est le lieu de la promesse. De même que, ce que nous attendons, c'est le Olam Haba, avec le retour dans un Eretz Israël, je ne parle pas de l'État d'Israël, dans un Eretz Israël, dans une Terre Sainte, correspondant aux prophéties. Et donc, c'est ça le but. Eh bien, la transition, le passage de la sortie de l'exil actuel dans lequel nous sommes, ne peut pas être moins long que la durée qui a séparé la sortie de l'exil d'Égypte et l'entrée en Terre Sainte. Et donc, il a fallu 40 ans pour certaines raisons. Eh bien, il faudra au moins 40 ans pour pouvoir entrer sous la souveraineté directe de Dieu. Et ce sont donc les 40 ans du Messie, puisque le Messie, c'est le, comment est-ce qu'on dit, le substantif de transition, le transitionnaire. Vous voyez ce que je veux dire ? L'homme qui fait la transition entre l'exil de ce monde-ci et le monde futur du royaume de Dieu, vraiment. Par conséquent, le minimum pour que le Messie puisse effectivement faire son travail, de faire sortir les Juifs de l'exil et de les amener pour qu'ils soient le plus vite possible sous la souveraineté directe de Dieu, ça peut pas être moins de 40 ans. Voilà l'opinion de Rabbi Eliezer. Comme je vous l'ai dit, nous pourrions y passer 3 heures sur chaque verset. J'essaie de vous donner un minimum pour vous montrer la cohérence de l'enseignement. Voyons, Rabbi Eliezer, un verset. Ce verset, il le lit comme l'ensemble de la tradition juive, et ça lui permet donc de dire 40 ans. Ça va ? Deuxième enseignement, c'est l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit 70 ans. Alors, là, c'est un verset très curieux. Le verset, je répète, il arrivera ce jour-là que Tsor, la ville de Tyr, sera oubliée pendant 60 ans, comme les jours d'un roi 1. Et premièrement, le Maharal fait remarquer que ce verset doit être lu non pas comme nous disant que les jours du Messie sont à comparer aux 70 ans pendant lesquels Tyr sera oublié, mais l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, pendant 70 ans, Tyr sera oublié. Ça, c'est un sujet pour lui-même. Ça, c'est un problème de savoir qu'est-ce que ça veut dire que Tyr, et pourquoi est-ce que Tyr sera oublié. Il y a une gemara là-dessus, on nous dit que Tyr et Jérusalem ne peuvent pas subsister ensemble. Si l'une est en haut, l'autre est en bas, et inversement. Pas que si Jérusalem est en gloire, Tyr tombe, et réciproquement. C'est un autre sujet. Ce que le verset nous dit, c'est que Tyr sera oublié pendant 70 ans. Sujet pour lui-même. Mais on nous ajoute quelque chose qui est 66 ans. Tyr sera oublié pendant 70 ans. Pardon, mais on nous ajoute quelque chose qui apparemment ne sert à rien. Comme les jours du roi 1. Rachid dit, c'est apparemment superfétatoire. Qu'est-ce que ça rapporte ? Le verset suffisait que nous nous disent « Tyr sera oublié pendant 70 ans » et le verset continue d'ailleurs, n'est-ce pas, vous ne l'avez pas ici, « À la fin des 70 ans, Tyr sera tout à fait comme le chant d'une prostituée, etc. N'est-ce pas ? Elle pleura, etc. » Donc on s'occupe de Tyr. Nous dire que Tyr sera abandonné pendant 70 ans suffit. Donc si on ajoute conformément au temps du jour du Messie, c'est que le verset de Isaïe nous apprend un enseignement, il nous explique pas pourquoi, mais il nous apprend un enseignement factuel que la durée du roi 1, c'est 70 ans. Vous comprenez ? Pour l'instant, on n'a pas compris pourquoi, mais la Bible écrite dans Isaïe nous annonce que 70 ans, c'est-à-dire comme la durée du roi 1. Est-ce que vous comprenez le raisonnement ? Le Rav qui présente ce verset à l'appui de ces 70 ans nous dit qu'est-ce que ça veut dire roi 1 ? Eh bien, le mot Echod ayant plusieurs sens, il dit Meyuchad, le roi unique. Et comme l'explique le commentateur, le seul qui puisse être appelé roi vraiment, c'est le Messie. Même David n'était appelé que Nassi, que prince. Celui qui a le seul qui aura le titre de roi, c'est-à-dire un R majuscule, n'est-ce pas? Le roi par excellence, le roi un, l'unique, c'est le Messie. Par conséquent, tout à fait juste de dire que lorsque la Bible dit comme les jours du roi un, eh bien, cela s'applique au Messie. Alors maintenant, si nous voulons quand même essayer, parce que moi, il y a une différence entre constater un fait, le comprendre. Si nous disons, je me rends compte que la Lune, pardon, je me rends compte que les marées, elles vont, elles viennent, et si je décris exactement en été les marées sont de temps, l'hiver sont de temps, bon, c'est un fait que j'accepte comme quelque chose de factuel. Je n'en connais pas le sens. Lorsqu'avec la science me montre le rapport qu'il y a entre la Lune et les étoiles, c'est un commencement d'explication. Pourquoi le rapport de la Lune, on peut aller de plus en plus en profondeur dans la science. De la même façon, nous avons la science factuelle. La Bible, c'est-à-dire la référence pour les rabbins, ce qui est la réalité décrite, le monde tel que Dieu l'a créé, tel qu'il est décrit dans la Bible, nous dit 70 ans égale durée du Messie. Donc nous savons que, par là, que la durée du Messie doit être, ou peut être, ou pourrait être, de 70 ans. Ceci ne nous explique pas pourquoi. Alors, certains commentaires par ailleurs nous expliquent que ces 70 ans ne sont bien entendu pas arbitraires, mais que nous avons des versets dans les psaumes qui nous disent que 70 ans, c'est la durée moyenne de la vie humaine. Vous trouvez la référence si vous voulez. C'est un des psaumes d'ailleurs cité par un des rabbins, je crois que c'est le psaume. Je vais sur le psaume 95, peut-être, le premier. Oui. Il y a un des psaumes, je vais le retrouver, j'espère, qui nous dit très clairement que la durée moyenne de la vie d'un homme, c'est de 70 ans. Et par ailleurs, et là ça devient, si je puis dire, encore plus intéressant, voilà, c'est dans le psaume 90. Le psaume 90 qui est cité après pour dire « Réjouis-nous selon les jours », etc. Le verset 10 dit « Yemei sheno seinu vohem shivim shono » Les jours de nos années sont 70 ans. Et si c'est avec vaillance, si c'est vraiment très fort, 80.